This is CKCU Literary News.
Bonjour, Hans Korgerup est au micro. Eh bien, nous voilà enfin dans la nouvelle saison des actualités littéraires dans le monde francophone. C'est avec grand plaisir que je resalue Lucie Renaud, rédactrice en chef du webzine montréalais La Recrue du Mois, qui vous présente, chers auditeurs, un nouveau volet de l'émission mensuelle consacrée aux nouveaux auteurs québécois. Voici donc Lucie Renaud.
Alors bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je m'entretiens avec Tristan Malavoie-Racine qui nous parle d'une nouvelle collection qu'il lancera très bientôt 25 septembre, qui est numéro 5. Bonjour Tristan.
Bonjour Lucie.
Alors, partir une nouvelle collection, quand même, c'est tout un défi, mais je pense qu'il faudrait peut-être reculer en arrière, parce que quand même, tu ne viens pas nécessairement du monde de l'édition directement. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le grand saut?
Je viens pas du monde de l'édition, mais je le côtoie depuis plusieurs années. J'ai donc lu beaucoup, j'ai suivi la production littéraire québécoise de près. J'ai donc l'impression d'avoir eu un cheminement qui m'a quand même préparé à ce boulot.
Alors quand même, se lancer dans l'édition, c'est une chose, mais là, viser spécifiquement des premiers livres, des premiers romans ou des recueils de nouvelles, c'est quand même un défi supplémentaire.
On va publier beaucoup de premiers romans ou premiers recueils de nouvelles, pas exclusivement, ceci dit. Il faut dire que ce qui me motive d'abord, moi, dans ce travail, c'est celui de faire découvrir, de jouer un peu un rôle d'éclaireur. Ce qui me motive, c'est de m'ouvrir à vivre des coups de cœur pour des bouquins qui me séduisent sur le plan formel, sur le plan de l'histoire, mais qui me séduisent très, très fort. C'est la seule condition, d'ailleurs, qu'on s'est donnée pour publier un bouquin dans la collection qui est numéro 5, c'est qu'il y ait, au départ, un grand coup de cœur.
Alors, qui est numéro 5, déjà, le nom de la collection évoque le voyage, pousse au rêve d'une certaine façon. Est-ce que c'est une thématique qui va se retrouver dans certains des livres ou tous les livres, ou à un niveau ou à un autre?
Oui, certainement, mais ça peut très bien être le voyage intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, je ne veux pas devancer les questions, mais ma première cuvée, la cuvée de l'automne 2013, elle illustre bien ça, parce que dans un des deux titres qu'on lance, je spécifie que le mandat, c'est de publier 2 livres par saison, donc 4 par année. Ça bougera peut-être un peu, mais l'objectif, c'est celui-là. Cette cuvée 2013, elle nous invite tantôt au voyage physique. Il y a un des deux livres qui nous fait voyager aux quatre coins du monde, d'ailleurs. Et tantôt, à un voyage plus intérieur. On quitte pas Montréal dans l'autre des titres, mais il y a un voyage à l'intérieur du côté des élans, des envies de bousculer le monde. Encore une fois, je ne vais pas devancer les questions, mais simplement pour illustrer que ce voyage, il peut être en soi aussi.
Alors, si on parlait justement des deux premiers titres qui seront lancés ces jours-ci, alors on a tout d'abord « Faire violence » de Sylvain David, donc qui vient du monde de la musique à la base, qui a vécu une vie peut-être tumultueuse jadis et qui souhaitait revenir là-dessus. Et on a également « Vertige » de Frédéric Garicomo, qu'on connaît comme auteur-compositeur, qu'on connaît également comme poète, oui. Mais qui se lance ici avec un premier roman. Alors, qu'est-ce qui a attiré l'œil du nouvel éditeur là-dessus?
On peut parler d'abord de Sylvain David, qui est un drôle d'animal, hein? Donc, ancien guitariste punk, il était guitariste du groupe Banlieue Rouge, dont vont se souvenir quand même pas mal de monde au Québec, groupe phare de la scène punk au Québec dans les années 90. Et ce qu'il fait dans ce livre-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Il revient, mais donc des années plus tard, et avec la lecture des choses qui est celle d'un mec qui est devenu... quelqu'un qui a fait des études littéraires poussées, qui est devenu professeur de littérature à l'Université Concordia, spécialiste de Cioran, entre autres. Il a publié un essai sur Cioran il y a quelques années. Il revient sur ses années punk et puis il revisite l'élan du jeune punk qu'il a été. Il revisite et tout en disant les conséquences fâcheuses que certains de ses gestes, certaines de ses décisions à l'époque ont pu avoir, le danger qu'il y avait derrière ça. Il y a une certaine nostalgie pour la pureté de cet élan du jeune qui veut bousculer sa société. Donc, c'est ce qu'il explore à travers un texte que moi, je trouve à la fois clinique et très touchant parce qu'on sent cette nostalgie pour ce qu'il vivait, donc... à l'intérieur, pour revenir à l'idée de voyage, il y avait cette idée de transformer le monde autour de soi. Et je pense que c'est un texte qui peut parler, c'est un des volets qui m'a intéressé dans l'idée de le publier, qui peut intéresser des jeunes, entre autres les jeunes qui l'an dernier ont dit « Wow, Wow, cette société, j'en veux pas. Ou en tout cas, je la veux différente. On s'adresse à eux, entre autres. Frédéric Garicomo, c'est un roman très, très différent. C'était important pour moi d'envoyer le signal assez tôt dans l'histoire de la collection qui avait une place qui avait une place chez Quai numéro 5 pour des romans à l'écriture assez poétique. C'est un livre qui porte une histoire claire, intéressante à suivre, avec des rebondissements, mais racontée dans une langue qui est celle du poète Frédéric Garicomo. Et puis là, dans ce cas-ci, le voyage, il est au sens propre. On passe de la Turquie à Santa Fe, New York et Paris, en passant par Moncton.
Alors, j'ai remarqué que d'ailleurs, dans ces deux titres-là, en fait, il y a eu un travail certain sur le rythme, sur la respiration dans les deux textes. Par exemple, au niveau de Sylvain David, on a des phrases très punch, très courtes, presque un essoufflement. Et bien sûr, dans le cas de Frédéric Garicomo, on sent la voix du poète derrière. Est-ce que c'était une volonté, justement, de proposer une littérature un peu différente au niveau de ce qu'on lit habituellement au niveau narratif?
Ben, je suis un amoureux de la musique, hein. Les gens qui me connaissent, en tout cas, le savent. Et je suis très sensible au rythme. Je suis sensible au rythme des écritures, entre autres. Il est clair que Quai numéro 5 va être un rendez-vous avec des écritures au rythme singulier. Pour des raisons très différentes, on est devant, en effet, deux livres dont la rythmique, l'aspect percussif est quand même présent. Chez Sylvain David, il y a cette langue, encore une fois, assez clinique, souvent à l'infinitif, qui déstabilise dans les premières pages, mais qui finalement laisse filtrer toute une émotion, une colère sourde que je trouve extrêmement maîtrisée. C'est un livre qui est arrivé, on l'a retravaillé un peu, Sylvain et moi, mais il était pas mal achevé, hein, un livre extrêmement contrôlé. Le livre de Frédéric a représenté, je dirais, un chantier. Il faut dire qu'il vient d'être terminé, ce livre-là, un chantier peut-être un peu plus en friche, mais absolument passionnant. C'est pas simple pour un poète de passer à la langue romanesque. Frédéric en est conscient, c'est-à-dire que préserver la lumière qu'il y a dans la langue poétique, tout en ayant la clarté, la précision qui est nécessaire à faire avancer une histoire, entre guillemets, sur le terrain du romanesque. Je pense qu'il y est arrivé. Frédéric est un grand lecteur d'auteurs comme Marguerite Duras, comme Alessandro Barrico, surtout. Et puis, c'est un peu ça le défi, d'en arriver à un rythme ample, souple, conjugué à une précision.
Parce que c'est quand même... déjà, en fait, on passe de la poésie au narratif pour lui. Est-ce que les gens vont le suivre, ceux qui le connaissent comme poète? Est-ce qu'ils vont le reconnaître, selon toi?
Oh, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que les gens qui ont aimé Forêt et puis tout ça... Il a publié une douzaine de recueils, Frédéric.
Tout à fait.
Vont reconnaître sa capacité de placer à l'intérieur de trois ou quatre mots simples toute une charge. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs chez ces poètes qui se mettent au roman, c'est par moment ils vont nous glisser une phrase qui contient tellement que on s'arrête dessus pendant une minute ou deux, on la relit, on la savoure. Je crois que oui, mais il va gagner clairement un nouveau lectorat parce que ceux qui sont un petit peu moins sensibles à l'écriture poétique vont éventuellement être happés par cette histoire où il y a question de terrorisme international, où il y a question de violence, de jeunes artistes qui veulent changer le monde, une histoire de vengeance aussi au cœur de ce roman. Et honnêtement, c'est pas une science exacte, hein. Je sais pas ce qui va arriver de ces deux livres, mais je pense que dans les deux cas, Frédéric comme Sylvain vont toucher à leur façon tout un lectorat. En fait, je me croise les doigts.
Tout à fait. Alors, qui est le public cible de Quai numéro 5? Bien sûr, on vise très large et on voudrait que la Terre entière lise Quai numéro 5.
Pas nécessairement, mais... non, c'est pas ça l'objectif. Quand je vois le succès que connaissent certains bouquins assez vides, à mon avis, je me dis que c'est pas sur ce terrain-là que je vais jouer. Je veux qu'on touche, je voudrais qu'on atteigne tous les gens qu'on peut potentiellement atteindre avec ces bouquins-là. Donc là, il y a tout un travail à faire, un travail de présentation, de promotion, de défense des titres. Tous ceux qui aiment à la fois des bonnes histoires et des langues trempées, signées, peuvent être sensibles à ces titres-là. Ce sont le genre de bouquins devant lesquels il faut se donner plus que 10 pages, je dirais. Bon, on peut être happé tout de suite, mais c'est le genre de livres qui contiennent encore une fois une rythmique dans lesquelles il faut se laisser glisser. Je pense que quiconque lit 30 ou 40 pages de ces deux livres-là va réaliser qu'il est devant un rendez-vous littéraire intéressant et porteur.
Oui, c'est ça. Il faut accepter de se faire dire comment lire d'une certaine façon ou d'adopter le rythme de l'auteur, ce que certains ne sont pas nécessairement prêts à faire en tant que lecteur.
Oui, ben je le dis depuis le début. Moi, je suis pas dans le monde de l'édition pour faire comme les autres. Je vais apporter ma couleur, je vais apporter ma sensibilité aux langues, encore une fois trempées, aux gens qui cherchent sans chercher la complication. C'est important de le dire. Moi, j'aime les histoires très simples. Je peux aimer des histoires d'amour simplissimes à condition qu'il y ait une justesse dans l'écriture et un peu d'audace.
Mmh. Qu'elle soit bien racontée, mais un peu plus que ça tout de même.
Ben, pour moi, la littérature doit être un peu plus que ça. C'est-à-dire que si moi, j'ai fait une place si grande à la littérature dans ma vie, c'est parce que j'ai trouvé là un champ sur lequel je suis parfois déstabilisé, où je me remets en question, où j'explore la notion de paradoxe. Alors, si on évacue ces choses-là du champ du romanesque, ça m'intéresse beaucoup moins.
Alors, Tristan Malavoy-Racine, le lecteur, que lit-il quand il ne lit pas des premiers romans qui attendent d'être publiés dans Quai numéro 5?
Moi, voilà, c'est presque gênant de répondre à cette question-là parce que je lis vraiment, vraiment de tout. Je lis de la BD quand même beaucoup. Je lis des biographies. Là, je suis dans la biographie d'Yves Courrière sur Joseph Kessel, qui est absolument passionnante, sur la piste du lion. Enfin, le personnage est romanesque, évidemment, Joseph Kessel, mais c'est tout le 20e siècle qui défile dans cette biographie. J'ai sur ma table de chevet, par exemple, actuellement, j'ai un ou deux recueils de poèmes. J'ai le dernier, Alain Farah, Pourquoi à Boulogne, dont on parle pas mal, qui est un très beau petit roman. J'ai aussi un recueil des discours marquants du 20e siècle. Ça, de temps en temps, je me tape un discours de Churchill ou de Gaulle. Ça, j'adore faire ça. C'est extrêmement large.
Mm-hmm. Dans le temps où c'était les personnes elles-mêmes qui écrivaient leurs discours et non pas une équipe derrière.
Ah, ça a changé.
Ah, bien, impossible, voyons. Alors, dans le cas présent ici, il y a un défi quand même de partir une nouvelle collection parce qu'on part de A à Z, mais on parle aussi au niveau de la commercialisation, du look du livre, du produit lui-même. Alors, quelle image a-t-on cherché à transmettre là, à cette collection, tant au niveau du logo que de la mise en page, ce genre de choses-là?
Je ne suis pas du tout de cette école selon laquelle l'objet livre détourne l'attention du fond s'il est trop joli ou si on prête trop d'attention à son graphisme. J'aime les beaux livres, moi. Donc, on s'est associé avec un graphiste qui s'appelle David Drummond, qui a fait beaucoup de couvertures. Du côté de l'édition anglophone au Québec, aux États-Unis. Et pour la première fois, il a eu l'occasion de présenter sa patte et sa signature versant édition francophone. Il est extrêmement motivé par ce défi. Il arrive avec, évidemment, un bagage et puis une palette qui provient plus de l'édition anglo-saxonne que j'aime, moi.
Mm-hmm.
Je suis pas souvent estomaqué par la beauté des bouquins dans l'édition francophone. Ça arrive, il y a plein de belles exceptions, mais c'est comme si on n'avait pas cultivé tellement l'idée du livre qui est un bel objet. Et moi, clairement, j'ai voulu que ces livres de Quai numéro 5 soient des beaux objets. Je pense qu'avec les deux premiers, on y arrive. Là, ils sont à l'impression, j'ai hâte de les tenir entre mes mains pour être sûr que ce que je vois à l'écran tient ses promesses sur papier, mm-hmm. sur carton. Mais,
et dans le creux de la main, parce que c'est là que c'est le plus important.
Ben oui, évidemment. Évidemment. Donc, depuis plusieurs minutes, on parle d'abord des textes. Du fond, mm-hmm. pour moi, c'est ce qui prime. Mais ensuite, pourquoi ne pas se faire le plaisir de sortir ça dans un bel écrin? C'est David Drummond aussi qui a créé le logo de Quai numéro 5, à travers lequel on a cherché à être à la fois moderne et fin 19e, je dirais. Mm-hmm. Il y a un côté un peu Exposition universelle de Paris, Tour Eiffel, dans ce dessin.
L'âge d'or des transatlantiques et
oui, c'est
des
ça.
Voyages au long cours. Là.
On voulait évoquer ça, mais la typo, quand même, c'est une typo assez contemporaine. Puis ça, ben, ça ouvre tout un champ propice à toutes les formes de voyage.
Tout à fait. Évidemment, on ne peut pas révéler les titres de la saison qui s'en vient, mais déjà, j'imagine qu'ils sont choisis, ceux qui vont sortir au printemps.
Il y en a un des deux qui est confirmé. Le deuxième devrait être confirmé bientôt. Deux titres par saison, c'est un beau défi. C'est-à-dire que c'est une belle petite production, mais il y a toute une gymnastique qui vient avec, parce que ça va vite remplir, entre guillemets, une saison de deux titres. Donc, on y pense comme il faut. On s'assure aussi que les deux titres vont bien cohabiter avec Vertige et Faire Violence. Ce qui est intéressant, c'est que les deux livres donnent des bonnes indications des directions que je veux prendre avec Quai numéro 5, mais ils sont bien différents, ils se distinguent, on peut les confondre. Je voudrais que ce soit comme ça chaque saison.
Donc, éventuellement, on va être dans une palette très large au niveau de ce qui va avoir été produit après quelques années, là. Si chacun est différent
du précédent. Oui, je ne sais pas à quel point. Je me suis donné comme défi à travers les deux, trois premières cuvées de bien indiquer le périmètre. On ne va pas partir dans tous les sens, mais on va se permettre d'explorer différentes tonalités, oui.
Alors, le travail, si on peut se permettre de cuisine avec les auteurs, est-ce que c'est quelque chose qui est gratifiant de travailler avec des auteurs qui abordent le genre pour la première fois, que ce soit dans le cas d'un poète qui devient romancier, tout ça, ou est-ce que c'est des défis qui étaient à la hauteur ou plus grand relevé que ce qui avait été prévu?
Plus de travail que ce que je croyais. Moi, dans mon travail journalistique, j'ai souvent révisé des textes, donc de quelques feuillets. Mais là, un texte de l'échelle d'un roman, c'est un chantier. C'est facile de s'y perdre pour l'auteur, mais aussi pour l'éditeur parfois. Donc, l'idéal, évidemment, c'est de se donner un peu de temps. C'est de pouvoir dire à un moment donné, bon, là, on tourne en rond. Regarde, on referme ça, on fait autre chose pendant les 3-4 prochains jours, puis on y revient. Mais c'est un chantier splendide. Vraiment, j'ai aimé ça encore plus que je le croyais aussi. Parce que tout est possible. On peut, des fois, en enlevant un bloc à un endroit, il y a des répercussions sur l'ensemble du roman. C'est là qu'on voit à quel point c'est une structure fragile. Un roman est sensible. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment grisant, là, j'y ai pris goût.
Et les entretiens avec les auteurs, tout ça, ça se passe bien? Est-ce qu'il y a certaines susceptibilités à ménager ou on n'a pas encore assez la grosse tête pour ça?
Par définition, les auteurs sont quand même des gens qui ont un égo bien présent, mais ça, c'est pas un défaut. J'ai pas eu de problème dans les deux cas dont on vient de parler. Du tout. Des fois, on s'entend pas sur tout, mais ça s'est bien passé. Je pense que les auteurs intelligents savent qu'on est là pour, à partir du moment où ils nous font confiance, qu'on est là pour les aider à aller un peu plus loin. Il y a Marie-France Baraton qui est une éditrice ici du côté de Romanichel chez XYZ qui m'a donné un bon conseil à un moment donné. Elle dit, tu sais, des fois, les auteurs ont moins besoin qu'on leur dise quoi faire que de se faire poser les bonnes questions. Et souvent, c'est l'auteur qui trouve la solution devant un problème. Nous, ce qu'on peut faire, c'est poser les bonnes questions pour d'abord pointer ce problème, puis ensuite essayer de l'aborder sous différents angles. Et puis, quelquefois, en tout cas, ça a déjà porté fruit. C'est l'auteur qui a trouvé la réponse, mais probablement que je l'ai aidé à aiguiller cette réponse.
C'est ça, si on parle de maïeutique, l'éditeur ici, d'une certaine façon.
C'est vrai, tout à fait.
Alors, je pense qu'effectivement, parfois, quand on rédige un texte, les questions que le lecteur se pose, on n'avait peut-être pas prévu qu'elles étaient là, parce que quand on a maîtrisé les personnages, on a l'impression de connaître leur moindre dessous, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'a transmis adéquatement. Alors, c'est là que le travail d'éditeur entre en ligne de compte.
Là, je présumerai pas que j'ai bien fait ce travail. On peut pas vérifier. On vérifiera dans un an ou deux.
Tout à fait. Alors, maintenant, au niveau des thématiques, si je comprends bien, quand même, la musique est un élément important de la vie de Tristan Malavoie-Racine. Est-ce que on devrait s'attendre à ce qu'il y ait quand même des références assez régulières au monde de la musique?
Oui, la musique et puis d'autres formes d'art. C'était pas nécessairement une notion que j'avais à l'esprit là, quand on a commencé à développer la collection, mais je me suis rendu compte d'abord que je recevais pas mal de projets puis de manuscrits, complets ou non, de gens qui trempent aussi un peu dans le milieu de la musique et de gens actifs au milieu des arts visuels, dans le milieu du cinéma. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un paramètre, un petit élément de signature? Ça sera pas systématique. Il va y avoir des livres où les autres arts sont moins présents, mais à date, là, les 4, 5, 6 premiers que j'envisage ont tous, d'une certaine façon, font tous place au cinéma, à la sculpture, à la musique, évidemment. Puis je trouve que c'est pas inintéressant, d'autant plus que c'est, chez moi, important, la cohabitation des arts. Ouais.
Alors, d'une certaine façon, peut-être que ceux qui connaissent l'auteur ou le nouvel auteur dans son milieu d'origine vont peut-être s'ouvrir à la littérature indirectement aussi, potentiellement.
Ben j'espère. J'espère que les gens qui trippent sur Frédéric Guéricomo, auteur-compositeur, et puis ils sont quand même nombreux, vont être appelés par le roman et puis vont y prendre goût, c'est certain. Les arts visuels sont très présents aussi dans le roman de Frédéric, qui a un côté érudit, hein, comme gars. C'est quand on travaille avec lui, quand on le lit, c'est frappant. Il a une mémoire prodigieuse. Il retient les noms de tous les artistes, des architectes. C'est quelqu'un de immensément cultivé, hein, Frédéric. Et moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup en le lisant. Puis je pense qu'il y a ce petit plaisir-là que les gens vont goûter à travers Vertige, celui d'apprendre des choses sur des artistes contemporains, entre autres.
C'est ça, et peut-être, après ça, d'avoir la curiosité d'aller retrouver les œuvres de ces artistes-là,
idéalement. J'espère bien, j'ai pas une cote si ça mène à l'achat d'un tableau ou d'un disque, mais non, évidemment, ça me ferait plaisir que ce soit... Pour moi, tous les ans se touchent beaucoup plus qu'on ne le dit parfois. Mm-hmm. Les uns influencent les autres, et puis si quai numéro 5 peut témoigner de ça, vraiment, ça va être une petite victoire pour moi.
Le quai numéro 5 se consacre par définition à, disons, une littérature émergente ou une nouvelle littérature. Est-ce que, au cours des dernières années, en tant que chroniqueur, par exemple, et en tant que grand lecteur, Christian Malavoisine a pu constater un changement dans ses premiers écrits-là ou dans cette nouvelle littérature-là au Québec?
Il y a un changement qui vient, je crois, de la qualité du travail éditorial mis sur des premiers romans, sur des premiers recueils de nouvelles. Je pense aussi une foi nouvelle dans le genre romanesque. Le roman, on parlait tout à l'heure de la notion de paradoxe qu'on peut explorer à travers le roman. Ça permet ça. Puis à notre époque, que je considère très paradoxale, très schématisée, assez monolithique dans certains secteurs, à cette époque, le roman permet de s'immiscer dans certaines réalités, dans certaines problématiques, de les faire éclater, de jeter un jour nouveau là-dessus. Et enfin, c'est une explication parmi d'autres, sans doute, je crois, dans cette foi nouvelle envers la littérature. C'est fou quand même, le nombre de... Là, maintenant, je reçois des manuscrits ici, là. Je sais ce que c'est. C'est incroyable, le nombre de gens qui écrivent des romans au Québec. Ils sont pas toujours bons, mais c'est une vitalité puis une foi dans le littéraire. Écrire un roman, là, qu'il soit bon ou pas, c'est long. C'est un travail de fou, de dingue. Et je trouve ça extrêmement rassurant qu'il y a autant de gens qui, dans cette époque qu'on dirait très, très productiviste et puis seulement axé sur les résultats puis sur la performance, qu'il y a autant de gens qui disent « Non, moi, je vais jeter l'éclairage du romanesque sur la réalité. » Ça me réjouit.
C'est une opposition aussi à l'instantanéité, d'une certaine façon. C'est quelque chose d'un plus long souffle, à tout le moins.
Ce qui rend le roman très contemporain, très pertinent aujourd'hui, c'est cette opposition, justement, à tout ce qui est un peu figé dans la société.
Alors, on va souhaiter longue vie à la collection qui est numéro 5, qui sera lancée le 25 septembre avec les deux titres que je rappelle, « Faire violence » de Sylvain David et « Vertige » de Frédéric Guéricomo. Alors, merci beaucoup, Tristan Malavoisine, de nous avoir accordé ces instants.
Merci de votre intérêt pour quai numéro 5.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter, sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.